des visages de l'Algérie, traverser ses couleurs, raconter ses légendes, ses dents, des villes et des histoires. Des villes et des histoires, une émission produite par Malika Lafer, réalisée par Saïd Bouterfa.
Enfant, le Sahara représentait pour moi une sorte d'espace magique auquel accéder était chose très difficile, voire impossible. Un espace où, venu d'une autre planète, le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. À l'infini, des dunes, sable tantôt jaune paille, tantôt ocre, les délimitations des teintes sont précises. Certaines collines sont surmontées de pierres, faisant un peu songer aux roches volcaniques. Le vent a battu la roche, au point de faire apparaître un éléphant momifié, la tête du vache qui pleure, perdu dans cette immensité. Les gravures rupestres, conservées grâce à la sécheresse du climat, les fresques donnant une idée de la vie des hommes et des animaux au cours des périodes humides du Sahara, dont la dernière se situe vers 2500 ans avant Jésus-Christ. Au IXe siècle, les Touaregs, islamisés, se placent sous l'autorité des Imanènes, sultans qui se donnent pour origine la branche de Serket al-Habra de Moulay Idriss et Moulay Aloui. Du nord au sud, la population de Djanet est répartie sur trois ksour. Trois ksour, dont El Mizen, Azelwaz et El Jahil, constituaient l'oasis de Djanet avant que s'établisse le fort Charlet, du nom du premier officier qui commanda, chargé de contrôler les tribus Touareg et les caravanes qui faisaient route vers la Libye et le Tchad. On écoute Hajbi Kaken Mokhtar. Monsieur Bekakan Mokhtar, ex-député, est aujourd'hui donc en retraite, mais pas en retrait, puisque la ville et l'histoire de Djanet vous fascinent et vous préoccupent. Alors, monsieur Bekakan, merci donc d'avoir répondu à notre invitation. La première question que l'on pose, la signification du mot Djanet.
Le mot Djanet, pour nous, veut dire le paradis. À raison, sur un rayon de 500 km, on ne trouve pas le moyen de vie. Mais en arrivant à Djanet, on se trouve dans une région, il y a la palmeraie, une oasis, l'eau et tout, le moyen de vie. Nos ancêtres disent Djanet, c'est El Jenna, le prieur de le paradis.
Donc c'est un beau présage, hein ?
Bien sûr, un beau présage, bien sûr. Et ça se voit d'ailleurs, même si on contourne toute la région, on trouve que c'est une oasis où il y a une vie, il y a sédentarisé, il y a une vieille ville, une ville qui dépasse des siècles, d'après ce qu'on sait, parce que là, si on voit Djanet en tant que Wad de Djanet, qui a été inondée au moins 4 à 5 fois, et on trouve d'ailleurs les gens, comment ils sont habités au sommet de Kou. C'est à cause des inondations de Oued.
Monsieur Bekakan, on aurait écrit sur justement la communauté Targhi, qu'elle aurait été donc chassée des bords du Nil durant la 18e dynastie. Il y a plusieurs versions.
Si on se réfère aux savants, bien sûr que ce soit les savants occidentaux ou les savants orientaux, même si on se referme au niveau de peinture rupestre qu'on trouve au niveau de Tassili, on dit que les habitants de cette région viennent de 23e famille de pharaons. Ça, c'est ce qu'on dit, une version orientale. Les occidentaux disent que les Touaregs viennent des ascendants de Romains. Et pour cela, ils disent que si on se réfère à l'histoire de Tinhinen. Mais la réalité, d'après ce qu'on prend et voit actuellement, si on se réfère aux traditions qui se trouvent dans cette région de Touareg, on trouve à peu près ce qu'on trouve au niveau de Yémen. Une chose est sûre, que le Touareg vient des Berbères. Si on voit du haut plateau, de Fezzan jusqu'au Maroc, on trouve presque la même langue qui se parle et les mêmes traditions. Et on trouve d'ailleurs, comme vous voyez partout dans le Maghreb, on trouve que les Berbères se trouvent au niveau des montagnes. On trouve des Kabyles au niveau des montagnes, on trouve les Touaregs dans le Tassil et le Hoggar.
Justement, ce n'est pas déterminé. Et puis il y a des chercheurs qui se contredisent et peut-être confondent les régions, puisqu'ils disent que les Touaregs, ils seraient des creuseurs de Fougara, alors quand on sait que les Fougara se trouvent dans les Touettes. Ce seraient des constructeurs de basina, cette forme de tombeau de pierre que l'on rencontre donc au Tassili. On a même rencontré des basinas au niveau de Gigel. Alors, est-ce dire que le Touareg s'est beaucoup déplacé?
Exactement ce que je voulais dire, puisque j'ai dit que les Touaregs viennent des Berbères, c'est une raison où on trouve presque les mêmes traditions au niveau des hauts plateaux, au niveau du Tassili, même si on va même au Maroc. La région de Touareg, bien sûr, le Grand Sahara. Et automatiquement, si je dis le Sahara, Touareg, ce qui veut dire si on va au Niger ou au Mali, on trouve la même chose, les mêmes traditions, et toujours au niveau des montagnes. Se réfugient dans des montagnes. Donc, nos habitations sont de montagnes, que ce soit à Adrar du Fouras, que ce soit au niveau du Niger, Tassili ou Hoggar, et la même chose au niveau du Mzab. Je trouve que c'est une fraction de berbères.
D'où vient le mot Touareg?
Ah, le mot Touareg. Pour nous, le mot Touareg vient de Tarja. Tarja, c'est une région qui se trouve à la Libye. Et cela, on dit le Touareg. C'est un nom donné au Touareg, mais le mot exact de Touareg, c'est Imouhar. Imouhar ou bien Imouzar, parce que là, comme chez nous, dans les Touareg d'Ager, on utilise le mot le Z, mais au Niger, au Mali, ils utilisent la lettre H et A. Imouhar, Imouzar, Imoujar, ça dépend de l'accent de la région. C'est pour cela que le nom Touareg, c'est un nom donné par les régions, parce que là, tout ce qui vient avant, il vient de Tarja. Mais le nom exact de Touareg, c'est Imouhar.
Imouhar qui veut dire quoi?
Imouhar, c'est comme des gens qui ont perdu leur bien.
On est remonté donc très loin dans le temps, bien avant Jésus-Christ, pour connaître quelque peu l'origine donc des Touaregs. Ensuite, on sait qu'ils se sont un peu dispersés géographiquement, en tout cas ici en Afrique et au Maghreb. Au 9e siècle, les Touaregs islamisés se placent sous l'autorité des sultans qui se donnent pour origine la branche de Sariyat al-Hamara de Moulay Idriss et Moulay Aloui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Du point de vue religion, une chose est sûre, que les Touaregs n'ont jamais embrassé d'autres religions que l'islam. Pour ce qui est le sunnite, ce qui vient uniquement à cause de la colonisation française. C'est à partir de là que sunnite, au niveau de la Libye, à l'époque, a présenté Hamoud pour combattre les Français au niveau de cette région.
À propos de résistance, pendant l'époque coloniale, il reste quelques forts ici à Djanet, le fort Charlet, quelques vestiges. Justement, la société Touareg s'est farouchement opposée justement à la présence coloniale.
Djanet, si je me souviens bien, d'après ce qu'on a dit, elle est la dernière qui a été colonisée par les Français. Il y avait une résistance farouche parmi la région. Vous avez cité le fort Charlet. Le fort Charlet, avant qu'il soit fort Charlet, c'était un zaouia. Xavier de Senussi. D'ailleurs, malheureusement, le français l'aurait arrivé vers 1912 ou ça. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont brûlé l'unique bibliothèque qu'on avait au niveau de cette région. Il y avait une résistance très forte. Et finalement, la France n'a pas colonisé le Genève qu'après 1922. Donc, vous voyez, par rapport à 1830 à 1922, ce qui veut dire qu'il y avait une résistance farouche au niveau de cette région.
Il y a la compagnie Flatters qui a été carrément décimée.
Bien sûr, il y avait beaucoup d'événements qui sont passés. Flatters, c'est vers 1888. Et à partir de là, les Français ont essayé d'arriver à ces régions et les Touaregs, bien sûr, n'acceptaient pas.
Monsieur Bekakan Mourta, je vous rappelle que vous êtes ex-député et aujourd'hui en retraite. À propos de Touareg, il y a une vision très réductrice, à savoir le Targhi, il est chasseur, il a aussi excellé dans le commerce. Une société millénaire, est-ce qu'on n'a pas oublié un certain nombre de choses très importante.
Comme partout en Algérie, le colonialisme a éliminé toutes les traditions et partout en Algérie, les Touaregs ont perdu la majorité de leur tradition et leur essence. Et la France à l'époque, elle a essayé de nous mettre à genoux.
Vous parliez de bibliothèques brûlées. Quelles ont été les représailles ici à Genève lorsque les Touaregs se sont farouchement révoltés à la présence coloniale? Quelles ont été les conséquences?
Alors, les conséquences, vraiment, je me souviens à l'époque où j'étais jeune, ce qu'on raconte, même ce qu'on a vécu. Vous savez que, après que, vers le 1922, la France, elle a exigé de la ville de Janet, 40 ans de corvée. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, le corvée. Travail forcé uniquement pour les citoyens de la ville de Janet. Je me souviens jusqu'à 1962 presque. Et uniquement pour les citoyens de Janet, c'est à cause de la révolte qu'ils ont fait.
Quel genre de corvée les gens de Janet ont-ils subi?
Voyez le Fort Charlet que vous voyez actuellement. Le Fort Charlet a été construit sur le dos de gens de Janet. Ils obligent à chaque carte de travailler la journée pour que soit payé. Il revient chez lui, donc il a été payé. Sinon, on emprisonne les gens. On oblige pour tous les cultivateurs à fournir la récolte aux Français. Et durant toutes ces périodes, la ville de Janet était sur surrection, jusqu'à l'indépendance presque.
Histoire difficile et dure à raconter, monsieur Bekakan.
On oublie même les mots pour définir ça.
Vous parlez maintenant de la société Touareg. Chez les Touareg, elle est un peu pyramidale, hein, comme dans les tribus. Le rôle de l'ami local, et on parle d'une société partagée en deux, il y a les nobles et les autres. Racontez-nous un petit peu cette histoire de nobles et les autres et de l'ami local, le rôle qu'il avait et qu'il a, est-ce qu'il a jusqu'à aujourd'hui, il a son importance.
Chez les Touaregs, il y a les nobles et il y a les non-nobles. Mais généralement, chez les Touaregs, il y a ce qu'on appelle Al-Jama'a. Il y a un conseil. Le plus âgé de chaque tribu. Ça constitue le conseil de... Et finalement, il y a quelqu'un, le chef, qui décide en conseil. En conseil de Jama'a. Il y avait trois villages à Djanet. Il y a Azeloise, il y a Elmizen. Je précise, ce n'est pas Elmihan. Parce que ça vient de mettre balance, Elmizen. Et il y a Adjail. Les trois quartiers, ça les quartiers, la ville de Djanet. Ça, c'est les sédentaires de la ville de Janet qui se trouvaient au niveau de ces villages. Le reste, ça, c'est la plupart, c'est la sédentarisation de nomades qui a voulu se détraser, ils se trouvaient actuellement au niveau de Tin Khatma et au niveau de Eferi et Nabab. Au niveau de ces trois villages, chaque village a son conseil d'administration, si vous voulez, administration locale, parce que les gens de Djanet ne reconnaissent pas l'administration française. Il y a un chef qui est généralement imam, et c'est lui qui dirige presque toute la tribu au niveau du village. Et il y a un conseil de trois villages, les trois grands chefs de ces trois villages qui se rencontrent à chaque fois pour trouver la solution à chaque problème.
Que l'on nomme l'ami local.
L'ami local, c'est autre chose. Si on parle là au niveau de Touareg, il y a deux régions. Au niveau de Touareg, je parle de l'Algérie. Il y a Agger et il y a Hogar. Agger a son amanokal et Agger a son amanokal. Avant le colonialisme, Agger se trouvait, il y a une partie d'Agger qui se trouve à la Libye et une autre partie en Algérie. La partie de Fezzan jusqu'à la région de Gardès se trouve ce qu'on appelle Agger. Et là, ils ont le même amanokal et qui se relie à chaque amanokal. Là, c'est divisé suivant des tribus.
Est-ce que l'amanokal aujourd'hui a son importance, quand je dis aujourd'hui en 2009?
Bon, automatiquement, maintenant, avec l'administration algérienne, il n'y a plus d'amanokal. Il y a des élus.
Il n'y a plus de sages.
Il n'y a plus de sages actuellement parce que, comme vous voyez, avec la jeunesse maintenant, il y a un cadre, mais pas comme avant. Il n'a plus le poids qu'avant parce que maintenant, il y a des élus au niveau de communes, au niveau de la ville, au niveau national. Donc, à Manokal maintenant, c'est le maire.
Ça veut dire que la société Targhi, elle s'est fondue
dans l'organigramme de l'État et ça devient...
Monsieur Bikakan, on va parler de la langue. Hein, la langue est ce qui réunit donc tous les membres de cette ethnie. Alors, cette étude qui présente toujours un grand intérêt, car elle peut dégager une origine qu'on vient de raconter. Alors, la différence entre le Tamahak et le Tamashek.
Bon, Tamahak, il y a Tamashek. Tamashek, il y a Tamahak. Bon, automatiquement, ça différence au niveau de l'accent. Il y a l'accent de Tamahak de Agger. Il y a l'accent tamahak de Agger, il y a l'accent de tamahak de Ayr, tamahak de Adrar, en forêt. Mais on se comprend. Comme on prend l'exemple de la grande et la petite Kabylie, on les entend, mais il y a une différence d'accent. C'est la même chose au niveau de tamahak. Ayr, par exemple, ils disent tamahak. Chez nous, on dit tamahak. Et ainsi de suite. La prononciation diffère, mais les termes se ressemblent et on se comprend.
Vous refutez le terme quand on dit les Touaregs de, par exemple, d'Ilizi ou les Touaregs de Tamal Rasset, c'est pas la même chose.
Il y a une certaine différence au niveau de la prononciation de la langue, c'est tout. Mais ils se comprennent, c'est presque la même chose. Et il y a une petite différence entre Tamashak au niveau des sédentaires et des nomades. Les nomades sont restés isolés.
Il y a le Tifinagh, qui est l'écriture donc, du Tamahak ou Tamashak. Est-ce que ça reste une écriture qui est employée pour tracer des inscriptions, c'est-à-dire laconiques, des messages, ou alors des déclarations, des rendez-vous, ou alors il y a plus de choses dans le Tifinagh?
Tifinagh, avant, c'est une langue où on écrit, on écrit même des lettres et tout. Mais depuis longtemps, on a délaissé. D'ailleurs, la jeunesse actuellement, ils ne savent plus rien de Tifinagh. Et depuis un bon bout de temps, ça y est, depuis l'arrivée de l'arabe, presque on ne l'écrit plus.
Même pour des petits messages d'amoureux?
Même si on prend l'exemple de cette fille, si tu le demandes, elle n'arrive même pas à déchiffrer une lettre du Tifinagh.
Donc ça reste à faire, quoi.
Ça reste à faire. Yeah.
On va parler justement d'aujourd'hui. En 1970, les Touaregs se sont sédentarisés pour des raisons climatiques. Les Oued ont envahi justement, ils ont détruit la ville de Janette, jadis. Et aussi, il y a eu une épidémie qui a attaqué tout le cheptel.
Oui, dans les années 70, il y a eu une épidémie au niveau du Tassili, ce qui a obligé les autorités locales à sédentariser les gens. Et c'est à partir de là qu'il y a eu la construction du village agricole, d'ailleurs. C'était un village agricole qui était destiné normalement à Bourj el Houas, où on est obligé de le construire et de sédentariser ces gens.
Alors, nomades, commerçants, ils le sont aussi agriculteurs.
D'ailleurs, je ne sais pas d'où vient le mot nomade commerçant. Parce que là, si on dit nomade, c'est des gens qui n'ont pas de frontières.
C'était ça la richesse, non?
Oui, mais c'est ça la richesse. Ils ont leur cheptel et ils sont libres d'aller là où ils veulent. Et là où il y a à donner à manger à leurs bêtes. Bon, vous utilisez le mot commerce de Touareg. Je vais expliquer une. Avant, il n'y avait pas ce qu'on appelle des frontières entre le Niger, la Libye, l'Algérie, le Mali. Tout est ouvert. Donc, il y avait ce qu'on appelait le troc. Par exemple, Djanet à la Sédate, les gens à chaque année aillent au Niger. Ils font l'échange avec les bêtes, la viande sèche, la nourriture qui se trouve au niveau. Il y a cet échange entre l'Aïr et Agir. Et là, bien sûr, si on peut appeler ça du commerce, c'est du commerce du troc.
Mais aujourd'hui, il reste le lien de parenté entre les gens de Janette et de la Libye.
Oui, automatiquement, c'est connu au niveau de chaque frontière. Il y a toujours des liens parentés. On a des liens de parenté avec la Libye, on a des liens de parenté avec le Mali, on a le lien de parenté avec le Niger. Et d'ailleurs, on trouve presque la même famille qui est divisée uniquement à cause du colonialisme qui a divisé la région avec des frontières. Et avant, on vivait en communauté entre les trois pays qui se trouvent actuellement.
La sédentarisation des Touaregs, c'est un bouleversement. C'est un bien, puisque certains disent qu'il y a eu la scolarisation, d'autres peut-être le regrettent.
La sédentarisation, quelque chose qui nous est imposé par la sécheresse d'un côté, et d'un autre côté, c'est une nécessité pour la nouvelle et la future génération, pour qu'elle aille à l'école, qu'elle trouve les médicaments et qu'elle vit une vie meilleure. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a créé la commune de Bourj el Houas. Avant, c'était une région uniquement de nomades. La ville d'Ilizi même n'était qu'une région de nomades. Et on a oublié une wilaya, et on a mis le siège de la wilaya à Élysée d'ailleurs, c'est à cause de ça. Et donc avec la sécheresse qu'il y a depuis ces années, on n'a plus presque de cheptel, que ce soit les chameaux, que ce soit les chèvres. Et...
Donc une vie meilleure pour la population, Monsieur Bikakan Mortar, vous êtes ex-député et aujourd'hui en retraite. Quels sont, vous dites que le Tifinagh est appelé à disparaître, la sécheresse, mais il y a des choses qui... Janette, c'est le paradis, donc quels sont vos vœux?
Mes vœux? Et là, j'aimerais bien que l'État définisse une politique du tourisme. Quelle est la politique du tourisme de cette région? Si on dit on veut un tourisme de masse ou un tourisme de l'art. Et le tourisme de l'art, bien sûr, il est bien limité. Et j'aimerais bien que le ministère du tourisme définit effectivement ce qu'elle veut faire de cette région. Si on ouvre les portes pour le tourisme de masse, il faut qu'on construise les moyens d'accueil, que ce soit au niveau de l'aéroport, que ce soit au niveau des hôtelleries, que ce soit au niveau de la restauration, et ainsi de suite. Vous constatez qu'au niveau de Janette, il n'y a pas un hôtel. Actuellement, il y a des agences qui travaillent au niveau de Janette, mais ils ont beaucoup de problèmes pour accueillir leurs clients. Donc, je souhaite bien à ce qu'on donne à cette région c'est que l'abysme.
Développer son économie à travers le tourisme, parce qu'elle est de tradition touristique, Janet, depuis aujourd'hui de longues années, monsieur Bekakan. Mais on dit que le touriste, lorsqu'il arrive ici à Janet, il n'est pas du tout intéressé par la ville, mais surtout par les sites et le paysage. C'est ce qu'on dit, hein, pour accuser le manque d'infrastructures.
Et j'aimerais bien à ce qu'au moins, qu'on construise au moins 300, 400 lits, au moins pour accueillir la qualité du tourisme qui veulent du confort.
Nous avons visité l'Erksol, je crois que ce serait tellement bien que l'Erksol soit restauré. Séjourner dans l'Erksol qui sont des génies architecturaux.
L'Erksol ne sont pas une personne. On trouve au niveau de l'Erksol une maison à 100 ou 200 personnes. Ils ont essayé à maintes fois de voir cette situation, mais il y a toujours des problèmes d'indivision. Voilà, des problèmes d'indivision au niveau de Sursour. D'ailleurs, ils ont essayé de faire ça au niveau d'Almihan, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu ce qu'on a voulu faire.
Janet bin Jbal Wurda Fattaha Demtazou Bizzin Joudaou Asala. فيها شفت الزين طفلة ترقية حجبها مقدود والعين سحارة خلت الغزلان منها محتارة تبتسم وتقول ربي سواها يا مالك الزين هالزين منين يا توره بشر والله حور العين هادي بنت وصول ناسها مسلمين جوال وأحرار متفقهين في الدين زعماء وثوار جزائريين سكان تاسيلي راهم مشهورين في العالم شتى ظني معروفين
Cher Méalé n'est plus comme avant. Sa progression s'est faite en dents de scie. À Janet, depuis 1968, il a troqué ses montagnes de Kabylie au plateau du Tassili Niger. Et aujourd'hui, il rend hommage à son ami Jabrin. Beaucoup de peintures et gravures rupestres dans le parc du Tassili Niger ont été découvertes grâce à lui, à son instinct et à sa mémoire prodigieuse. Lui, le grand pisteur, convoyeur, le monumental guide de grands chercheurs occidentaux de 1949 à 1981, année de sa mort. L'Algérie touristique gagnerait à lui rendre l'hommage qu'il mérite, lui qui fut humble, sage, magnanime, lui qui n'avait rien demandé, ni attendu quoi que ce soit. Face à l'ingratitude d'Henri Lot, Malika Hashi, dans son remarquable ouvrage de recherche préhistorique sur le Tassili Niger, lui rend un vibrant hommage. Accompagnant sur le terrain les équipes de dessinateurs, il avait aussi pour mission, pendant que celles-ci travaillaient, de prospecter les forêts de pierres aux alentours. Ainsi, le plus souvent, il revenait au camp avec plusieurs surprises, associées à l'une des plus grandes découvertes archéologiques de ce siècle. Les Touaregs eux-mêmes conviennent que Jibril fut l'un des meilleurs connaisseurs du Tassili. Dans cette fantastique aventure, une seule chose vient nous troubler. Si Henri Lot obtint une immense notoriété mondiale grâce à cet événement, l'exposition du pavillon de Marsan à Paris, et qui fut traduit en plusieurs langues, Jibril, lui, est resté un parfait inconnu qui ne bénéficia d'aucune retombée. On écoute Ahmed Ali. Avec M. Ahmed Ali, nous sommes ici donc à Janet pour parler un petit peu du tourisme et qui a bien voulu se prêter au jeu pour nous raconter un petit peu la mémoire de la ville et son tourisme qui aujourd'hui, par rapport à certaines années, n'est pas aussi florissant. Mais allez, vous êtes arrivée ici en 1968. Janet n'était pas comme elle est aujourd'hui.
Janet, à l'époque, c'était autre chose que ça. Il y avait à peine quelques maisons. Il y avait ici, sur la place du marché, l'ancienne agence en bas. Il y avait quelques magasins. Tout le reste, ici, aux Éribas, c'était des huttes. C'était des huttes. Il n'y avait pas de caserne militaire. Et il y avait à peine deux, trois gendarmes. Deux, trois policiers, quelques maires qui ne possédaient qu'une vieille Land Rover et des chameaux.
Alors Amélie, qu'est-ce qu'il y avait dans ces années-là, en 1968, qu'il n'y a plus aujourd'hui ?
Il n'y a plus la même ambiance. À l'époque, quand il y avait les groupes touristes, il y avait le Touring Club à l'époque. Après la découverte d'Henri Lotte en 1956, enfin pas la découverte, disons plutôt quand il est venu faire le relevé. Parce que ce n'est pas lui qui a découvert les peintures. Les peintures, ce sont les anciens militaires tels que Baronnance en 1934, puis ceux qui sont venus par la suite ont aussi constaté qu'il y avait des peintures. Et Henri Lotte est arrivé en 1956, financé par le Musée de l'Homme, et avec des militaires et le matériel et tout ça. Et donc, ils avaient utilisé des 6-6, des Dodge. 6-6 sur le plateau.
Donc on reviendra donc sur Henri Lotte, qui est un anthropologue et qui a fait donc des travaux, qui a même laissé des ouvrages à propos de, en tout cas du Tassili-Naja, puisque nous y sommes. On revient à vous, vous êtes arrivé, comment vous avez été accueilli ? Votre première fonction, ça a été guide.
Quand je suis arrivé en septembre 68, le Touring Club était déjà implanté. Parce que ce que je vous disais, quand Henri Lotte a trouvé les peintures, quelques années après, le Touring Club de France, en accord avec le Touring Club d'Algérie, faisait venir des clients, des touristes. À l'indépendance, le Touring Club d'Algérie a continué. À l'époque, quand il y avait les Français, c'était un instituteur qui était ici, un Français qui s'occupait de ça. Et à l'indépendance de l'Algérie, ça a été les Algériens. Il y avait eu un monsieur qui était une année avant moi ici, à Ali Guerjou. C'était très très bien, tout le monde trouvait ça impeccable. Il n'y avait pas cet état d'esprit qu'il y a maintenant. C'était tout à fait autre chose. Les gens étaient accueillants. On ne faisait pas de distinction entre les uns ou les autres. Il n'y avait pas ce complexe-là. Tout le monde était associé à notre travail. Par exemple, la mairie nous aidait beaucoup. Parce que l'hôtel en lui-même, il était communal. Il était géré par la municipalité. À la fin de la saison, des équipes sur le Tassili, nettoyer, refaire les sentiers par où les touristes montaient, amener les camions, gratter la tolondule pour qu'on puisse aller dans de bonnes conditions vers l'Agba. C'était très très bien puisque tout le monde participait à ça.
On revient donc à Henri Lotte. Jebrin, en plus d'être guide, il servait d'intermédiaire, de trait d'union entre la population de Janet et les étrangers. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce grand Jebrin
Jebrin, il fait partie de la tribu de Kelmedek, la tribu qui est Touareg, qui vivait sur le Tassili. Et donc, quand Henri Lotte est arrivé, on a fait appel à lui. Et c'est comme ça que Jebrin, d'abord, il était hésitant. Mais après, il a collaboré. Et d'ailleurs, il m'a raconté, il m'a dit qu'il n'avait pas le choix. Parce que sa tribu vivant sur le Tassili, il s'est posé la question, où je les aide, et je leur montre, et je les coince, et ma tribu aura la paix. Où je les laisse, il y avait des militaires, il y avait des postes militaires, des miaristes et tout ça. Ou bien je les laisse faire. Donc à ce moment-là, ils envahissent le plateau à chercher les peintures et ça perturbe les campements de sa famille.
C'était pour mieux les maîtriser.
C'était pour mieux les maîtriser. Et il a pris ses enfants, des gens de sa tribu qui travaillaient, qui aidaient Henri Lotte à faire les relevés. D'ailleurs, il y a une anecdote qui m'a été racontée. Un jour qu'ils sont allés faire des relevés quelque part, ils ont pris un fils à Jibril, qui était tout gamin. Et il lui avait dit, tu vas aller chercher de l'eau. Ils lui ont mis des garbas sur un âne et l'ont fait partir chercher de l'eau. Malheureusement, le petit garçon, qui ne connaissait pas ce secteur, est parti, s'est perdu. Quand ils sont rentrés, il est où le garçon? Ouais, il est parti chercher de l'eau avec un âne, il n'est plus revenu. Ils ont fouillé partout, il s'était perdu le pauvre. Il s'était perdu, il avait soif et il est tombé. Ils l'ont retrouvé avec des fourmis déjà dans la bouche. Et là, Jibril a failli déclarer la guerre. Et ce n'est que... En suppliant, et ils sont allés, ils ont commencé à le supplier, on ne savait pas, et ceci et cela. Ils se sont excusés, ils ont donné quelques cadeaux, ce n'est que comme ça que l'affaire a été un petit peu amortie, quoi.
Ah mais allez, Jibril est comme une icône ici, hein. Il est très connu, c'était le grand guide. Est-ce qu'il vous a appris à vous?
Jibril, quand je l'ai rencontré, il était déjà âgé. Et Jibril, c'est un homme très, très discret, comme tous les nomades d'ailleurs. Ce n'est pas la personne qui est collante après les gens qui viennent d'ailleurs. Il était toujours à l'écart auprès de sa tribu. À Tamrit, de temps en temps, à cette époque, il marchait encore assez bien. Il venait à Tamrit de temps en temps, il disait bonjour et on discutait un petit peu. Ce n'est que vers les années 74, il est venu s'installer à Tamrit, à proximité du camp que la Sonatrach a installé. Il était là-bas, donc je le voyais beaucoup plus souvent. C'est-à-dire que chaque fois que je montais au Tassili, pendant que les gens faisaient la sieste ou le soir au retour de la promenade, j'allais le voir et je restais avec lui 2-3 heures à discuter.
C'était un privilège.
Alors, oui. Et puis, je préférais partir quand les étaient au campement, puisque notre campement à nous, il était plus haut. Mais je ne tenais pas à y aller avec les touristes parce que lui n'aime pas se faire photographier et moi je respecte et je trouve ça d'ailleurs très bien.
Alors, on va revenir justement sur ces peintures de ce Henri Lotte, au Tassili Najer. Vous nous disiez hors antenne que les gravures rupestres ont été abîmées par Henri Lotte. Pourquoi?
Pour en revenir à Henri Lotte, ce monsieur qui est arrivé là n'était pas compétent en la matière. Donc, quand il a commencé à faire ses relevés, il a pris une éponge et il passait sur les peintures. Il s'est aperçu que, en enlevant la pellicule de poussière qui était dessus et en les mouillant, ça les faisait apparaître mieux. Mais sans savoir que le lavage, c'était ce qui les abîmait. Et pour vous dire qu'il n'avait pas toutes les compétences voulues. Et chose encore plus grave, c'est que dans ses écrits, il a insisté sur le lavage, que ça les faisait bien apparaître et tout ça. Donc tous les touristes qui sont venus, qui ont lu ses bouquins, ont fait de même. Et ça les a abîmés. Avec le temps, ça, elle s'est effacée. En plus, pendant son relevé, il y a une fresque, par exemple, à Jabarain, qui a été découpé au burin. Un morceau de rocher qui a été découpé au burin et qui a été emmené au Musée de l'Homme à Paris.
Ah, Mais allez-vous penser que beaucoup, beaucoup de notre patrimoine archéologique a été confisqué par les gens qui sont venus, en l'occurrence des spécialistes ?
Henri Lot lui-même, il a pris d'objets, d'outils et de tout. Il a mis tout ça au musée de l'Homme. D'ailleurs, l'Algérie en a récupéré une partie. Il a carrément saccagé le Tassili. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est que moi je l'ai eu, Henri Lot. Il est venu avec mon directeur à la fin de la saison. Il y avait sa femme et on est monté au Tassili. Arrivé à Sefar, à un moment donné, il a dit « Bon, on va aller voir la peinture, il n'y a qu'une seule fresque où il y a des moutons. Je vais partir et vous allez me retrouver là-bas. » On lui a dit « Il ne faut pas partir, vous n'allez pas les trouver. »« Oh si, mais ben, le Tassili, c'est comme chez moi. » On l'a laissé partir, on est parti une demi-heure après. On est arrivé à la fresque et pas d'Henri Lot. Il a fallu qu'on court encore pendant une heure et demie vers lui. C'est pour vous dire que monsieur se considérait comme étant le maître du Tassili, le maître du rupestre et tout. Et lorsqu'en 1978, il est revenu avec 50 experts de l'UNESCO et il y a eu même le ministre algérien de la culture qui était à l'époque Radem Malek, qui est arrivé deux jours plus tard. Je suis redescendu pour le faire monter au Tassili, qui les a rejoints. On a fait venir Jibrin. Je lui avais dit de se préparer parce que le ministre venait et qu'il voulait le voir. Et donc, quand on est arrivé avec le ministre, Jibrin, sur son chameau, il s'est installé. Et Henri Lot s'est levé. « Ah, mon ami Jibrin !» La réflexion de Jibrin a été la suivante. « Vous avez ramené le bourricot avec vous en parlant en tergui. » C'est où il me dit, dans ses bouquins, il disait que Jibrin, il avait gagné beaucoup d'argent en lui montrant ses peintures, mais que Jibrin avait beaucoup de concubines et qu'il jetait son argent à acheter des trucs pour ses concubines. Or, Jibrin, à l'époque, il devait avoir dans les 65 ans. Et vous voyez ce tergui noble faire des trucs pareils.
Il avait peut-être folklorisé
la situation. D'ailleurs, à l'époque, le dieu des peintures rupestres et tout cela, c'était Henri Lot, c'était personne d'autre. Jibrin m'a raconté l'histoire de ses peintures quand il était jeune. Les Touaregs s'éloignaient des grottes où il y avait les peintures parce qu'ils pensaient comme tous les gens, que ça a été fait par des génies ou des choses comme ça. Et un beau jour, il a pris son courage à deux mains, il est allé s'installer dans une grotte, près de Tanzoumaitok. Il s'est installé là-bas avec son chameau, il a fait son feu et toutes ses armes, pour voir est-ce que vraiment...
C'était des génies
ou pas. Alors il s'est installé, rien ne s'est passé. Il est allé à un autre endroit, kif-kif. Et il a regardé sous les peintures, il a trouvé des outils, des pointes de flèches, des trucs comme ça. Il a trouvé des os et il a trouvé des cendres. Et le type, il s'est tout de suite dit, ce sont des gens comme nous.
Donc c'est lui qui a découvert les peintures.
Voilà, exactement.
Vous pensez qu'Henri Lot a été très ingrat avec lui ?
Ah oui, ça je peux vous le certifier. Parce que, connaissant les Touaregs, ce ne sont pas des gens qui parlent pour ne rien dire. Comme par exemple, vous leur parlez d'un personnage qui ne leur a pas fait du bien, et vous le dites. Mais si la personne a eu un comportement correct, ce sont les premiers à vous le dire également. Donc, voyez-vous, moi, d'après, j'ai lu les bouquins d'Henri Lot. Je comparais ce qu'il avait écrit lui-même, ce qu'il disait lui-même et ce que disait Djibril. Entre les deux, il y a une très grande différence.
Le Tassili Najjar, vous y êtes depuis 1968, mais ça vous a donné l'occasion d'aller au Niger, en Libye, dans beaucoup d'autres pays aussi.
Je suis allé en 1971, en septembre 71, parce que quand j'ai travaillé ici, il y avait beaucoup de d'agences étrangères qui venaient ici avec leur matériel. C'est-à-dire que en octobre, ils arrivaient avec des voitures, leur matériel et tout ça, et leurs clients venaient par avion. Ils arrivaient, ils les prenaient en charge et ils partaient faire leur circuit. Quand ils avaient fini, ils reprenaient l'avion et d'autres arrivaient.
Vous, ça vous a donné l'occasion aussi de...
C'est à ce moment-là que moi j'étais autour d'un club d'Algérie qu'une demoiselle qui avait une agence en Allemagne avec laquelle j'avais fait connaissance ici. Chaque fois que je descendais du Tassili et qu'elle était ici, elle questionnait mes clients. Quand on descendait du Tassili, les gens étaient contents et tout ça. Et elle prenait des renseignements sur moi. Et donc, c'est comme ça qu'elle m'a proposé de travailler avec elle et de faire les grandes expéditions vers le Niger. Donc, en septembre 71, on s'est retrouvés à Gardaïa. Et elle avait loué une maison, dépôt de matériel. Et elle m'avait donné une voiture. Elle m'a dit, tu vas prendre une partie du matériel, tu vas l'amener à Djanet et tu vas louer une maison à Djanet, tu fais un dépôt. Elle avait pris contact avec la douane pour les formalités, tout ça. Et donc, j'étais parti de Gardaïa vers le Niger. Et il devait rentrer 25 jours après ici à Djanet. Donc on se retrouverait ici. Donc j'ai pris la Land Rover avec une partie du matériel et je suis venu ici. J'ai loué une maison, j'ai vu la douane avec laquelle qui a contrôlé tout le matériel qu'il y avait. Et je suis reparti faire un autre chargement. Et quand elle est arrivée ici, elle a pris mon passeport, elle est allée voir le sous-préfet, elle lui a dit, voilà, j'ai engagé un Algérien qui va travailler avec nous. Il est appelé à sortir et à rentrer. À l'époque, il fallait une autorisation de sortie.
D'accord.
Alors le sous-préfet a dit oui, d'accord. Il y a un contrat entre lui et moi, en bonne et due forme, mais vous allez lui faciliter les entrées et sorties. C'est comme ça qu'on m'a donné une autorisation de sortie renouvelable sur présentation de la vieille. Je suis parti vers le Niger, nous faisions le Ténéré, on partait d'ici, Djanet, Jado, qui est à 640 km d'ici, Jado, Chirfa, Séguédine, Anaï, Dirkou, base militaire, Bilma, où il y a les salines, les mines, les salines pour le sel. Et de Bilma, la piste des caravanes de sel, qu'on appelle la Zalaï, au Niger. Et on prenait pas la piste Berlia, on prenait la piste des caravanes sur Fachi. Et Fachi, arbre du Ténéré, on arrivait à Agadez, on faisait un tour dans l'Aïr, le Timia et Farouane, et après on revenait par Ngizab.
Alors nous sommes ici à Djanet avec Amé Ali qui a bien voulu nous raconter. Il a travaillé, beaucoup travaillé. D'abord, vous ne voulez plus quitter Djanet là, ce que je vois?
Non, je ne partirai pas. Vous savez, quand on a vécu 40 ans au Sahara, je crois que c'est fini. Vous voyez bien que les touristes ils viennent pour 8 jours, il y en a qui retournent et qui reviennent l'année suivante parce qu'ils ont du Sahara. Alors,
c'est-à-dire, en échangeant les montagnes de Kabylie au grand Tassili Najjar, vous avez choisi, ça y est.
Mais c'est kiff-kiff, c'est le même pays. C'est le même pays.
C'est pas le même paysage.
C'est pas le même paysage, bien sûr, c'est pas le même paysage, mais c'est le même pays. Et vous savez, les gens sous-estiment le patrimoine algérien. Ils se disent, les Algériens, c'est le tort qu'ils ont, c'est de se dire, ah, le Sahara, c'est le sable, c'est les cailloux, c'est les... Ces cailloux ont une valeur inestimable. Ces paysages ont une beauté naturelle. Je ne sais pas, ils ne ressentent pas ce que cela veut dire. Or, la nature par elle-même, c'est la vie. En plus, vous avez le soleil. Moi, je sais que quand je suis au Sahara, que je sors là, je quitte la ville ici, je me sens encore plus libre que je ne le suis.
On peut vous demander votre âge ?
1945, 73 ans.
Le temps est le moyen offert à tout ce qui sera d'être afin de n'être plus. J'espère que vous y serez la semaine prochaine, alors ce sera bien. Merci à Claire Douane pour sa collaboration.